Vous écoutez
RMC. RMC, la matinale week-end.
Stéphane Genest, Antoine Martin, bonjour.
Bonjour à tous.
Les trois titres de ce dimanche.
Faire un effort, c'est en substance l'appel d'Emmanuel Macron en ce qui concerne la réforme des retraites. Et on a tous quelque chose en nous de Johnny Hallyday. 5 ans après sa disparition, on retient la nuit en écoutant toute la musique que l'on aime avec l'un de ses plus grands fans.
Un duel très attendu cet après-midi. Le Polonais Lewandowski, redoutable buteur face au gardien des Bleus Hugo Lloris. Un match dans le match pour la 142e sélection du capitaine.
La matinale week-end.
Il veut déminer le terrain. Après un entretien chez nos confrères de TF1 hier midi, c'est dans les colonnes du Parisien que s'exprime Emmanuel Macron ce matin.
Interview de 4 pages, immigration, retraite, énergie, crise économique, guerre en Ukraine. Le président qui passe en revue bon nombre de dossiers et il entend bien se mettre en première ligne sur chaque sujet d'actualité, Cyprien Pézril.
Après de nombreux déplacements à l'étranger qui l'ont tenu éloigné de la France, Emmanuel Macron veut occuper le terrain, défendre son action et celle de son gouvernement, avec 2 interviews consécutives près de 8 mois après sa réélection, sur les sujets brûlants, le risque de coupure d'électricité, pas de panique, on va passer l'hiver, dit-il, appelant chacun à consommer moins, puis il enchaîne la réforme des retraites, présentée dans moins de 15 jours, avec un report de l'âge légal à 65 ans, personne ne se réjouit de travailler un peu plus, mais il faudra faire un effort, prévient-il, insistant sur la prise en compte des carrières longues et de la pénibilité. Le chef de l'État, qui poursuit sa revue des sujets du moment, réintégrer les soignants non vaccinés, en substance n'est pas raisonnable à l'heure du retour du Covid. L'immigration, débattue à l'Assemblée après-demain, c'est dans l'ADN de la France, mais on ne peut pas accueillir tout le monde, dit-il encore. Enfin, il cible Marine Le Pen sur la guerre en Ukraine. C'est l'ami de la Russie. Avant d'appuyer, depuis le début, elle a un discours de capitulation.
Et dans cet entretien, Cyprien Pézril nous le disait, Emmanuel Macron est revenu sur la réforme des retraites et du report de l'âge légal à 65 ans. Travailler plus longtemps est donc le seul vivre. Voilà ce qu'affirme le chef de l'État, une déclaration faite avant la fin des concertations avec les partenaires sociaux. Une intersyndicale se réunit d'ailleurs demain pour organiser une réponse, voire une riposte à ce projet de réforme des retraites. Gérard Mardinet est le secrétaire général de la CFE-CGC.
Cette concertation n'est pas sincère, vu qu'on n'a pas fini de traiter le point de l'équilibre des régimes, qu'on a déjà des déclarations qui sont faites publiquement sur des bases fausses, parce que les chiffres qui sont donnés sont basés sur des hypothèses tout à fait contestables. On est dans un contexte où le gouvernement n'écoute personne, avec des éléments de langage présentés comme étant de bon sens. C'est totalement intolérable et je pense que l'intersyndicale en prendra acte et décidera d'actions assez fortes.
Et clap de fin pour la 36e édition du Téléthon. Plus de 78 millions d'euros de promesses, de dons récoltés pour le Téléthon des retrouvailles. C'est 4 millions de plus que l'année dernière. Et d'ailleurs, vous pouvez encore donner, ça continue, 36-37 pour le téléphone ou encore sur téléthon.fr.
Vous nous le disiez en titre, Stéphane, un triste anniversaire. 5 ans déjà que Johnny Hallyday nous a quittés.
L'idole des jeunes, le patron, French Elvis, le taulier et j'en passe, notre Johnny National continue d'animer nos soirées et notre quotidien parfois. Et quand je dis quotidien, je pèse mes mots, puisque Kevin Gasser, vous avez rencontré un fan pas comme les autres, puisque pour lui, penser à Johnny, c'est vivre pour le meilleur. Reportage.
Bienvenue chez Alain Lecoq.
Mon surnom, pour info, c'est Cococ.
Jaquette en cuir, pantoufles floquées, Hallyday au pied. Cet ancien restaurateur de 63 ans est à la retraite depuis mercredi. Sa passion pour Johnny, elle, continue.
C'est un saltimbanque, c'est un monsieur, c'était le patron, c'était le boss.
La rockstar est partout sur les murs et les meubles du bureau, du domicile familial. Johnny s'y produit même encore en modèle réduit sur la scène de l'Olympia ou aux côtés des vieilles canailles.
C'est un ami à moi qui me l'a fait, vous n'en trouverez jamais sur le marché. C'est une maquette de l'Olympia, où Johnny a joué dans les premières années de sa vie.
C'est aussi dans les premières années de sa vie qu'Alain Lecoq, élevé par une famille d'accueil, découvre le rock'n'roll. Souvenir, souvenir. Et d'autres morceaux plus mélancoliques.
Alors un titre mythique qui me colle à la peau, c'est Noël interdit. Noël. Il chante le Noël qu'on aurait toujours voulu avoir.
L'anniversaire des 5 ans de la disparition de son idole, Alain le redoute.
Mais pour moi, Johnny Hallyday existe toujours et existera toujours dans mon cœur.
Alain se rendra à la cathédrale Sainte-Croix à Orléans vendredi, où une messe est organisée en hommage à Johnny.
Johnny qui a aussi chanté Allez les Bleus, évidemment. Il est 7h04.
Le journal de la Coupe du Monde.
Antoine Martin, beaucoup de noms de joueurs français ressortent, mais un tout particulièrement ce dimanche, c'est celui d'Hugo Lloris.
Le capitaine des Bleus devra mettre ses émotions de côté pour sa 142e sélection, record de Lilian Thuram sous la tunique bleu-blanc-rouge égalée. Le portier des Français doit aussi retenir la leçon face aux Suisses il y a un an à l'Euro.
On en a beaucoup parlé les mois qui ont suivi l'Euro et c'est un élément qui peut rentrer en compte. On peut pas se relâcher, on peut pas sortir du match, on peut pas être déconcentré. Si on commence à se relâcher à un moment du match, on peut laisser l'adversaire prendre le dessus, revenir dans le match. Il faut rien lâcher, quel que soit le scénario du match. Ne pas laisser espérer l'adversaire, faut être tueur et faire mal à l'adversaire.
Et en face, l'autre menace polonaise se situe dans les cages. Aussi, le gardien des Aigles Blancs a activé le mode Albatros dans ce mondial. Wojciech Szczęsny a déjà stoppé deux pénaltys, dont un de Lionel Messi, s'il vous plaît. Si la Pologne s'est qualifiée à la différence de but, c'est grâce à lui un atout majeur, surtout en cas de séance de tir au but. Valentin Jamin.
Le regard concentré, les genoux fléchis, une grande détente sur la gauche. Un arrêt impressionnant de Wojciech Szczęsny sur le pénalty de Messi, 4 jours après l'avoir fait contre l'Arabie Saoudite.
Quand vous tirez un pénalty face à Szczęsny, le but vous paraît tout petit.
L'ancien gardien des Bleus, Lionel Charbonnier.
Il le fait à l'instinct, il ne part pas trop tôt, donc il a une grande maîtrise de lui-même. Avec l'envergure qu'il a, il a juste une poussée, il peut toucher le poteau. C'est un mec impressionnant.
Une technique améliorée à la Juventus depuis 2017. Szczęsny, spécialiste, a arrêté 26 pénaltys sur 87 en carrière, près de 30%. Johan Giroud a joué avec lui à Arsenal il y a 8 ans et souligne son caractère.
C'est une personne confiante et insouciante, un petit peu fou. C'est ce qui l'aide à continuer à performer sans trop de pression.
Au Qatar, aucun gardien n'a évité à son équipe plus de buts que le Polonais qui dit connaître la clé pour stopper Mbappé.
Myself.
Moi-même, répond-il en souriant.
Et on aime ces prises de parole sans langue de bois. France-Pologne, l'avant-match à 15h dans l'intégrale Coupe du Monde. Puis vous retrouverez Jeannot Rességuier au commentaire à 16h pour le coup d'envoi. On verra à la réponse de Kylian Mbappé face à Szczęsny. L'attaquant des Bleus en est déjà à 3 buts dans ce mondial. Lionel Messi est revenu à sa hauteur hier lors des premiers huitièmes de finale. L'Argentine a battu 2-1 l'Australie. Les Pays-Bas sont au rendez-vous d'écart aussi après leur succès face aux Américains 3-1. Les Oranges retrouveront l'Albi Céleste pour une place en demi-finale.
Et puis la dernière rencontre du jour en huitièmes de finale, c'est Angleterre-Sénégal.
Le demi-finaliste du dernier mondial, finaliste du dernier Euro face au vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est que du bonus pour les Sénégalais sans leur star Sadio Mané, blessé pendant ce mondial. Présent à ce stade de la compétition, le Sénégal, pour la première fois depuis 20 ans et la Coupe du Monde 2002, les Lions de la Teranga sont loin d'être favoris, admet Régis Bogert, l'adjoint d'Aliou Cissé.
Battre l'Angleterre serait un très grand moment. On a bien l'idée que l'Angleterre, c'est une équipe du top 5, comme on dit. Aujourd'hui, ils sont 4e ou 5e mondial. Aujourd'hui, je veux dire, penser ou imaginer que battre une équipe effectivement de ce niveau-là, c'est aussi être capable, je veux dire, de montrer, je veux dire, tous les progrès qu'on a été capable de faire et qui sont réels.
Angleterre-Sénégal, coup d'envoi 20h ce soir dans l'intégrale Coupe du Monde de Nicolas Jamin. On le rappelle, le vainqueur de ce huitième affrontera en quart le vainqueur de France-Pologne tout à l'heure à 16h. Et des nouvelles du roi Pelé, âgé de 82 ans, admis à l'hôpital cette semaine. Les nouvelles ne sont pas bonnes, il serait admis en soins palliatifs. Ce sont les dernières informations qui nous viennent du Brésil. Tout le pays retient son souffle en pleine Coupe du Monde. Lui, le triple vainqueur de la compétition.
Merci beaucoup Antoine Martin. France-Pologne, c'est donc à 16h à vivre sur RMC, la radio officielle de cette Coupe du Monde, et à vivre aussi depuis chez vous, avec parfois des difficultés pour trancher. Tiens, partons tout de suite chez Grégory. Bonjour Grégory.
Bonjour Grégory.
Bonjour.
Ça va être compliqué ce dimanche. Pourquoi ça va être compliqué? Expliquez-nous.
Bah, je suis marié avec une charmante polonaise depuis 25 ans.
Ouais.
Et donc ma femme et ma fille et Eliva vont supporter la Pologne.
D'accord.
Et moi et mon fils Pavel, on va supporter les Bleus.
Bon, ça va, c'est équilibré, 2-2.
Oui, oui. Non. En plus, en ce moment, j'ai la belle-maman qui est en France en vacances à la maison.
Ah oui, non, alors.
Donc vous êtes en infériorité numérique, là, Grégory.
Tout à fait, monsieur.
Et en plus, on sait que parfois, les belles-mamans, ça compte pour plus que un.
Oui, ouais. Ça
prend pas mal de place, parfois. Ouais. Grégory.
Par contre, d'avant. Oui, Mathieu.
Dites-moi, comment vous allez faire dans le salon? Vous faites une ligne pour chacun son camp, vous divisez la télé en deux, qu'est-ce qui se passe?
Non, pas la télé, mais le canapé, ouais. Le canapé, on va le couper en deux, on va le séparer.
Vous avez sorti les drapeaux ou quoi?
Non, mais par contre, table d'ambiance.
Et le menu, qu'est-ce que vous allez manger, franco-polonais ou pas?
Voilà, on va manger des pierogis, je peux te connaître.
C'est quoi, non?
Les pierogis, c'est des raviolis à la pomme de terre.
D'accord. Voilà. Écoutez, bougez. Oui.
Non, c'est bon, je vous écoute.
Mais bougez pas, Grégory, parce que il y a quelqu'un à qui ça doit aussi dire quelque chose, tout ce que vous nous dites. Sylvain, bonjour. Ah.
Bonjour Sylvain.
Oui, bonjour. Je suis dans le même cas que Grégory.
Même configuration. Voilà. Madame est polonaise.
Sauf que moi, je vais pas manger pirogi ou bigours ou des plats polonais. Je vais leur faire du bœuf bourguignon.
Ah bon. Donc voilà. Ça, déjà, dans l'assiette, le camp est choisi, là, Sylvain.
On va les déstabiliser un peu au niveau de l'assiette.
C'est génial.
et puis après, je sais pas si Grégory, mais moi, dans les deux cas, au pire, je vais devenir bipolaire, mais moi, dans les deux cas, je suis qualifié, je suis en quart de finale, quoi.
Oui, parce que finalement, pareil. Que ce soit la France ou la Pologne, vous supportez les deux.
Exactement. je mettrai les. Voilà, moi, demain, au travail,
quoi qu'il en soit, vous aurez gagné.
Voilà, exactement, j'aurais gagné.
Oui, bah, vous vous en sortez bien comme ça, Sylvain.
Mais Grégory, c'est ça qu'il devrait faire.
Vous avez un prono ou pas, Sylvain?
Ouais, la France.
Et la France combien?
Bah, avant la séance de tir au but, parce que avec le gardien qu'ils ont.
Eh oui, il va falloir éviter ça.
Faut éviter les tirs au but.
Bon, victoire de la France, sans se prononcer plus précisément. Sylvain, non. Pour vous, Grégory?
Oh, pareil. Moi, je pense plutôt une victoire assez large de la France, avec un doublé de Mbappé. Et comme ça, Mbappé pour un grand hommage au roi Pelé, sachant qu'il est à l'hôpital en ce moment. Une belle victoire de la France assez large.
Bon, écoutez, on va suivre ça, évidemment. Dans une heure, Manu Amoros et Jean Rességui en direct de Doha seront avec nous sur RMC pour les dernières infos. bien sûr, le Marseillais qui sera avec nous, Manu Amoros. On va suivre ça. Embrassez bien Dorota pour nous, Grégory et Sylvain.
Merci.
Embrassez bien aussi tout le monde.
Ça marche. Moi, c'était Magda, je vous avais vu à l'époque pour du covoiturage.
Ah mais oui, je me souviens, c'est la fameuse polonaise que vous avez rencontrée, coup de foudre en covoiturage.
Oh, comme dans un film. J'adore.
Et comme quoi, et quelques années plus tard, ça se termine sur un canapé, chacun de son côté, devant un match.
Ouais.
Voilà.
Exactement.
Et oui, il faut vivre pour entendre ce genre d'histoire. Salut Sylvain.
Bon match messieurs. Merci.
Et salut Grégory, bon match à vous deux.
Merci, au revoir.
Il est 7h12, dans un instant.
Êtes-vous prêt à faire encore plus d'efforts?
On peut éviter les coupures cet hiver, nous dit Emmanuel Macron ce matin dans Le Parisien, à une condition, qu'on fasse encore des efforts. Tous, pour limiter notre consommation, la faire baisser de 10%, ça veut dire se chauffer encore un peu moins, ça veut dire allumer la lumière encore un peu moins. Est-ce que vous êtes prêt à faire plus d'efforts pour éviter les coupures de courant? À vous de nous dire au 32-16, on se retrouve dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
RMC 7h14, soyez les bienvenus. Allez, un petit effort, s'il vous plaît, juste encore un tout petit effort.
RMC, à vous de nous dire.
Bonjour Margot Bourdin.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
Bonjour Margot.
Bonjour à tous.
On vous pose cette question. Êtes-vous prêt à faire encore plus d'efforts pour éviter les coupures de courant cet hiver?
Oui, parce que la balle est clairement dans notre camp, Mathieu. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Il était interrogé hier par nos confrères de TF1, le président qui se veut rassurant. Pas de panique, nous pourrons passer l'hiver si tous ensemble, nous respectons le plan de sobriété.
Si tous ensemble, nous tenons le plan de sobriété, c'est-à-dire réduire d'environ 10% par rapport à nos consommations habituelles. Et à côté de ça, si EDF continue le travail, alors oui, nous pourrons passer, même avec un mois de décembre, un mois de janvier froid, cette période. Ça dépend de nous. Et donc, mon message, c'est responsabilité, mais en aucun cas panique.
Alors, vous l'entendez, deux conditions. D'abord, il faut que EDF remette en route le parc nucléaire. D'ici la fin de l'année, 43 réacteurs sur 56 doivent être opérationnels. C'est ce qui nous permettrait de passer l'hiver sans encombre. Mais à l'heure où l'on se parle, 23 réacteurs sont toujours à l'arrêt. Rappelons que les trois quarts de l'énergie qu'on produit en France est d'origine nucléaire. Autre condition, réduire de 10% nos consommations d'électricité habituelles en respectant ce fameux plan de sobriété annoncé par le gouvernement début octobre et en chauffant notamment seulement à 19 degrés dans les espaces occupés.
Et sur ce point, figurez-vous que tout le monde ne joue pas le jeu.
Oui, la consommation d'électricité est bien en baisse par rapport à une année normale, moins 6% ces dernières semaines, mais elle est principalement due à l'industrie. Le secteur consomme 15% de moins, mais pas forcément dans un élan de sobriété. En fait, l'industrie est surtout confrontée à des prix de l'énergie très hauts et à des difficultés d'approvisionnement. Les efforts des Français et des Françaises sont pour l'instant très peu visibles. Consommation en baisse, moins 1%, dit RTE, le gestionnaire du réseau électrique. Et ce sont les entreprises qui sont les mauvais élèves. Le patron d'RTE l'assure. On ne voit pas de baisse dans le tertiaire, dans les immeubles de bureaux. Il faut que les entreprises se mobilisent.
Est-ce que vous êtes prêt à faire encore un peu plus d'efforts pour éviter les coupures cet hiver?
Eh bien, ce matin, vous répondez non à 84%, comme Harar qui réagit à notre consultation RMC sur Twitter. Hors de question que je me serre la ceinture pour des politiques qui ont ruiné nos centrales nucléaires. Ludo nous dit qu'il est prêt à faire des efforts, mais plus par souci économique, car la facture d'énergie flambe.
Vous continuez de réagir sur Twitter, sur l'appli RMC et aussi au 3216. Bonjour Christian.
Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour.
Ça va,
bonjour
Christian, à Toulon, dans le Var, c'est bien ça Christian?
Tout à fait.
Alors, voilà. 84%
oui.
Sur Twitter, non, je ne ferai pas d'efforts supplémentaires. Vous faites partie des rares 16% à dire oui, je veux bien encore faire des efforts.
Oui, il y a des efforts à faire, il y a des efforts possibles, pas à faire obligatoirement, c'est pas une obligation, mais ce sont des idées qu'il faut promouvoir par exemple. Et puis des petits gestes simples. Je voyais tout à l'heure sur BFM le conseil de l'application EcoWatt,
oui,
qui vous donne justement des petits conseils, comme par exemple la baisse du chauffage, effectivement, bah, 19 degrés, tout le monde le fait plus ou moins.
Mm-hmm.
Fermer ses volets, mettre des rideaux. Moi, j'ai acheté des rideaux thermiques.
Ouais.
Les rideaux thermiques, ça protège.
Ça fonctionne bien, ça, Christian?
Oui, ça fonctionne bien.
Ça conserve la chaleur?
Ça conserve la chaleur, oui, ça la conserve sûrement. Ne serait-ce que de 1 degré, c'est déjà ça.
Oui, c'est vrai.
C'est déjà ça de gagner. Mmh. La réduction des éclairages, mettre des LED partout chez soi, c'est une, ou des lampes à, des ampoules à basse, des ampoules à basse,
basse consommation. C'est possible, c'est vrai.
Éteindre toutes les prises en veille, par exemple, tous les soirs. Et quand on sort, moi je le fais systématiquement. Quand je sors, j'éteins absolument tous mes branchements en veille.
Bien sûr.
Ne serait-ce que faire une machine le soir plutôt que le faire dans la journée à partir de 22h et puis étendre à 23h.
Non, mais là, vous avez raison, Christian. C'est vrai que
il y a des choses à faire dans ce pays.
Des petits gestes assez simples.
Ce qui m'ennuie, c'est le manque de solidarité, le manque de fraternité dans ce pays. C'est écrit au fronton de nos établissements publics. Je trouve que le manque de fraternité, c'est ça. C'est ce que, en plus, bon, ce qu'on voit dans votre sondage, c'est systématiquement. Moi, j'ai regardé toutes les réponses. Pratiquement, c'est contre le gouvernement.
Oui.
C'est systématiquement les Français, c'est oui mais non.
Mais c'est parce j'allais vous dire, Christian, c'est qu'il y a peut-être un peu de lassitude.
Je ne supporte plus les Français pour ça.
Ouais. Non, mais je comprends, Christian. C'est vrai que c'est vrai que on est toujours à râler, à se plaindre et à dire je vais pas faire ça pour les politiques.
Ah oui mais non, c'est pas.
Vous comprenez pas bien la lassitude un peu, Christian, parce que c'est vrai que vous parliez d'EcoWatt, mais ça nous rappelle tout ce anti-Covid, ça nous rappelle toutes ces recommandations. Oui, Christian.
Oui, Mathieu, mais est-ce que l'on peut comparer tout ça à ce que vivent en ce moment les Ukrainiens? Vous voyez, moi, en tant que formateur français langue étrangère, j'ai enseigné cet été à des Ukrainiennes. Elles sont à mourir de chagrin. Je veux dire, ces gens, vous y pensez que ces gens sont sans électricité, dans le froid, dans le gel en ce moment? Ça, c'est vous, Français, vous pensez que vous souffrez? Mais regardez ce qui se passe là-bas. Vous allez voir que des gens souffrent vraiment. Ils souffrent vraiment. Et je trouve que nous sommes dans un confort très important. Très important.
Donc un peu de décence.
On n'a pas à se plaindre.
Un peu de décence. Coup de gueule de Christian ce matin.
Je suis vraiment en colère contre ça. Ouais.
32-16, on entend votre colère, votre agacement, Christian.
Vraiment, moi je suis en colère contre le manque de volonté de faire des efforts pour justement ne pas, ne serait-ce que les efforts que l'on va faire pourront justement ne pas induire cette coupure, ces coupures d'électricité, cette coupure d'énergie. Et puis aussi, pardon, le dernier point,
allez-y, parce
les histoires d'action rébellion, je ne sais plus comment on est.
Oui, les activistes du climat.
Oui, les activistes. Ben, ces gens-là, au lieu de bloquer la 6 ou de bloquer ci ou ça, qu'ils aillent éteindre toutes les lumières des magasins la nuit. Oui. Qu'ils aillent les éteindre. Ils sont au-dessus. Là, il y a juste un petit bouton enlevé. Enlever toutes les enseignes.
Il y a des collectifs, effectivement, qui font ça. Vous avez raison, Christian. 32-16 pour poursuivre le débat, pour répondre aussi à cette colère de Christian. Et tout à l'heure, j'aborderai cette question avec Manuel Bompard, député de la France Insoumise, notre invité, à 7h40. Pour le moment, il est 7h20.
À suivre dans la matinale week-end.
Des vacances au ski qui pourraient bien être les dernières cette année.
Et oui, à cause de quoi? Eh bien, à cause des passoires thermiques qui seront bientôt interdites à la location. On ne pourra plus louer de chalets ou d'appartements qui ne sont pas assez bien isolés. Le coup de main IMO vous explique tout dans une minute.
RMC, la matinale week-end.
Allez, bon réveil à l'écoute d'RMC. Vous voulez avoir... Oh là là, c'est pas possible.
Ça va aller, Mathieu.
Excusez-moi.
Encore une heure et demie.
Vous voulez avoir le sourire en vous réveillant. C'est dans 3 minutes avec Arnaud Demange qui nous emmène en Chine ce matin pour le meilleur d'Arnaud Demange. Mais d'abord, partons à la neige. Touchous, direction les stations de ski.
Le coup de main immobilier.
Votre rendez-vous immobilier sur RMC avec Marie Cœur de Roy.
Qui nous prévient, Marie, ce matin, profitez bien de vos vacances. Au ski, ça pourrait bien être les dernières. Bientôt, plus aucun appartement ou chalet à louer à la montagne. Mais pourquoi donc ? Bonjour Marie.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
Bonjour.
Eh bien, tout simplement parce que c'est bien dans les stations de ski qu'on trouve les parts les plus importantes de passoires thermiques.
Et oui, vous le savez, le gouvernement a annoncé son intention de soumettre les locations saisonnières aux mêmes obligations de rénovation que le reste du parc. Autrement dit, les logements que vous louez aujourd'hui sur Airbnb & Co, considérés comme des passoires thermiques, eh bien ces logements, ils devront avoir été rénovés d'ici à 2028, sinon ils sortiront du marché. Et c'est ainsi que Hiro, spécialiste de la rénovation des logements, s'est rendu compte des conséquences potentiellement énormes en publiant un classement des stations de ski en fonction de leur note de leur DPE. Climat, altitude, année de construction, les logements à la montagne, ils affichent les pires performances énergétiques du parc immobilier français. 70 stations analysées et les résultats sont sans appel. Si à l'échelle nationale, on compte un peu moins de 17% de passoires, la moyenne, elle monte à 50% à la montagne, avec évidemment des écarts importants, Mathieu.
Alors, où c'est le pire, Marie ? Dans les Alpes ?
Ouais, globalement, en fait, c'est dans les Pyrénées et les Alpes qu'on trouve les stations les plus énergivores. Les plus performantes se situent en général dans les Vosges, le Jura et le Massif Central. Alors, la championne des passoires, roulement de tambour, 90% de logements classés F ou G, Isola 2000 dans les Alpes du Sud. On est à 73% à Avoria-Morzine et encore au-delà des 70% à Font-Romeu dans les Pyrénées. Alors à l'inverse, c'est à Bellefontaine dans le Jura qu'on trouve le parc le plus performant. Seulement, je mets de gros guillemets, 15% de passoires, 20% au Champ du Feu dans les Vosges et encore moins de 30%, alors je sais pas si je le prononce correctement, à Altiégoual dans le Massif Central.
On vous pardonnera. Du coup, Marie, ces différences géographiques montrent quand même que le climat est un élément de plus en plus clé dans la note de ces logements, le DPE.
Oui, parce qu'en fait, c'est évidemment pris en compte au moment de votre diagnostic de performance énergétique. Car nos consommations, nos habitudes, elles sont évidemment pas les mêmes à la montagne qu'au bord de la mer. Mais attention, au-delà du climat, les mauvaises notes des stations, elles sont aussi liées à la nature des constructions des années 70. Et là, il y a une vraie alerte de Hiro avec l'interdiction à venir des passoires à la location. C'est en moyenne, la moitié du parc à la montagne qui risque de disparaître d'ici 5 ans, parce que la plateforme elle est convaincue, pour certaines stations, ce sera matériellement impossible de tenir les délais laissés pour rénover les logements.
Et voilà, merci beaucoup Marie Cœur de Roy, c'est tout de suite plus clair. Le coup de main IMO est évidemment à retrouver en podcast sur toutes les applis, mais surtout sur l'appli RMC, 7h24.
RMC, la matinale week-end.
C'est tous les jours de manche.
Vous aimez l'actualité ?
Évidemment.
Vous aimez rire ?
Évidemment.
Eh bien, nous rions de l'actualité tous les jours avec Arnaud Demange, 7h20, 8h20, du lundi au vendredi dans Apolline Matin, mais aussi le samedi et le dimanche, pour le meilleur d'Arnaud Demange, qui était très inspiré par les manifestations contre la politique zéro Covid en Chine.
Pour que même des ouvriers chinois se plaignent d'un truc, Apolline, c'est vraiment que ça doit être abusé quand même. Les gars, ils bossent 16 heures par jour, 7 jours sur 7 pour 20 euros. Ils vivent dans des barres d'immeubles qui feraient passer la Courneuve pour Saint-Tropez. Et ben, même pour eux, c'est trop. Vous vous rendez compte? C'est comme si Depardieu disait, non, arrête, là, j'ai trop bu. Désolé, je peux pas. Ou c'est Jean-Luc Lahaye qui dit, désolé, chouchou, t'es trop jeune. C'est vraiment que ça va trop loin. Alors, j'ai vu une vidéo où des habitants de Shanghai Shanghai, scande Xi Jinping, démission, Xi Jinping, démission. Exactement comme en France, quand on scandait Macron, démission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine, c'est vraiment le pays de la contrefaçon. Ils copient sur nous tout le temps. Ça devient drastique jusqu'à l'absurde. Je sais pas si vous avez vu cette info, mais il y a une dizaine de personnes qui ont péri dans un incendie parce que les pompiers n'ont pas pu accéder jusqu'à eux à cause des restrictions sanitaires. C'est-à-dire qu'en Chine, pour vous protéger d'une mauvaise grippe, on vous laisse brûler maintenant. En Chine, ils préfèrent que tu meurs en bonne santé. On comprend même plus pourquoi les mesures anti-Covid du régime chinois sont sévères à ce point. Nous, ça fait un bail qu'on a torché l'affaire quand même. On dirait qu'ils savent pas déconfiner. Alors, on peut leur prêter un spécialiste, on en a un. Je propose qu'on leur envoie Jean Castex. Ah, bonjour à tous, bonjour. Comment c'est la Chine, c'est pleine de Chinois. Je les imagine confinés comme des petits pois. Oh, un peu de bonne humeur. Alors, où sont mes lunettes? Chinoise, Chinois. Monsieur Jipeng m'a demandé de l'aide pour votre déconfinement. Alors, en phase 1, dans les régions de Shanghai, Pékin et Chongqing, les écoles seront fermées. Mais les usines resteront ouvertes. Et oui, il faut bien occuper les enfants. Et Noël approche, l'Occident aura besoin de jouets. Au restaurant, si vous mangez assis, vos baguettes pourront servir de bâtonnets d'autotest nasopharyngé, à condition que le test soit espacé du repas d'au moins 4 heures. Et si vous sentez l'odeur du repas sur votre baguette, c'est que vous n'avez pas perdu l'odorat et donc que vous êtes négatif. Et oui, d'autres règles vont suivre. Alors l'idée, c'est que les gens aient l'impression d'avoir un peu de liberté, mais que la règle soit suffisamment compliquée pour que personne ne puisse sortir au final. Et oui, c'est chinois, hein, ça reste à la chinoise. Malinx, le lynx, futex, le castex. Il serait parfait. Allez, à demain.
À demain, Arnaud Demange, bien sûr, dans Apolline Matin, tous les matins, 7h20 et 8h20. L'info du jour. En attendant, c'est l'huitième de finale, France-Pologne. Nous sommes en direct de Doha, dans le journal de 7h30. À tout de suite.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
Stéphane Genest, Antoine Martin, bonjour.
Bonjour à tous.
Les trois titres avec vous.
Attention aux Polonais cet après-midi, c'est une équipe défensive qui va se dresser devant les Français. La Pologne défend très bien et elle aime ça, prévient Didier Deschamps.
Opération service après-vente pour Emmanuel Macron après les annonces de coupure d'électricité. Pas de panique, affirme le chef de l'État. Et puis un collégien de 13 ans poignardé devant un collège de Sarcelles, un adolescent en garde à vue.
RMC, Coupe du Monde 2022.
Évidemment, la Coupe du Monde, pour commencer avec vous Antoine Martin, à quoi doit-on se préparer avant d'affronter la Pologne en huitième de finale?
Et vous vous souvenez peut-être de ce huitième de finale en 1998 à Lens face au Paraguay, l'immense match du gardien Chilavert et le but en or de Laurent Blanc. Et si ce scénario se répétait ce dimanche en direct de Doha, bonjour Loïc Braillet, vous êtes notre envoyé spécial pour nous faire vivre ce mondial. Que vaut la Pologne de Czeslaw Michniewicz?
Bonjour, alors sur le papier, il n'y a pas photo. La France ne joue pas dans la même catégorie que la Pologne. 26e au classement FIFA, les Polonais sont qualifiés derrière l'Argentine dans le groupe C. Elle a débuté par un match nul 0-0 face au Mexique, a battu logiquement l'Arabie Saoudite, puis s'est inclinée face à l'Argentine de Messi 2-0. C'est une équipe qui s'appuie sur un bloc défensif compact, efficace, incarné par son gardien Szczęsny, en pleine confiance après avoir déjà arrêté deux pénaltys depuis le début de la compétition. Didier Deschamps, vous l'avez dit, disait hier en conférence de presse que c'est une équipe qui adore défendre, mais pas que. Et oui, parce qu'elle possède aussi l'un des meilleurs attaquants de la planète, Robert Lewandowski, une machine à but dont les Bleus devront se méfier. Mais globalement, en termes de talent, la France est largement au-dessus et ne devra pas faire mentir les pronostics de certains bookmakers qui donnent le succès de la Pologne à plus de 100 contre 1.
Merci beaucoup Loïc Braillet en direct de Doha. On vous retrouve dans une heure dans le journal des sports de 8h30 et vous l'avez écouté sur RMC. Il y a eu beaucoup de surprises dans ce mondial en phase de groupe. Les Allemands et les Belges au tapis peuvent en témoigner. Attention aux mauvaises surprises, nous dit le champion du monde 98 Emmanuel Petit, consultant RMC Sport.
Tout ce qui s'est passé depuis le début de la Coupe du Monde, il y a eu un tas de surprises incroyables, mais quand les surprises se multiplient et se répètent, est-ce que au final ce sont des surprises? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le football mondial, notamment au niveau des sélections. Donc quelque part, je me dis que les Français sont prévenus. C'est plutôt une bonne chose justement d'avoir eu ces piqûres de rappel sur d'autres rencontres. Ouais.
Et puis l'une des forces des Bleus, c'est son attaque. Évidemment, 6 buts marqués en 3 matchs, 3 pour le seul Mbappé. La Pologne le craint évidemment. Écoutez l'idée de l'attaquant Arkadiusz Milik pour stopper le buteur français.
Comment défendre contre Kylian Mbappé?
Eh bien, je pense qu'il faudra être rapide. Il faudra qu'on ait un scooter pour le rattraper. C'est difficile de jouer contre l'un des meilleurs joueurs du monde. Il faudra que l'on joue en tant que groupe, collectivement, parce que personne, à l'échelle individuelle, ne pourra l'arrêter.
Et le joueur prêté par l'Olympique de Marseille connaît bien les Français, même s'il est actuellement en prêt à la Juventus.
La plupart des joueurs français jouent à l'étranger. J'ai de bons souvenirs de mon temps en France, mais nous avons un très beau match à disputer contre les tenants du titre. C'est un rêve devenu réalité pour beaucoup d'entre nous. Nous voulons continuer à disputer des matchs, à nous améliorer, rectifier certains axes et continuer à jouer. On apprécie le moment, on ne se met pas trop la pression.
Et la Pologne qui a tout à gagner face aux Bleus, c'est cet après-midi le dispositif exceptionnel d'RMC Radio officiel du Mondial. Avant match, dès 15h avec la bande à Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten, Jeannot Rességuier sera au commentaire de ce match. Ce premier match à élimination directe pour les Bleus, coup d'envoi 16h, une place en quart de finale est au bout et ce serait face au vainqueur de l'autre huitième de finale, Angleterre-Sénégal, coup d'envoi à 20h à suivre en direct sur RMC. Hier, l'Argentine et les Pays-Bas ont validé leur ticket pour les quarts de finale. L'Albi-Céleste face au Orange, c'est le premier quart connu et ce sera vendredi à 20h. Et dans ce contexte de la Coupe du Monde, on a une pensée pour le roi Pelé, 82 ans, qui est en difficulté en ce moment, admis en soins palliatifs selon la presse brésilienne. Vous entendrez les supporters brésiliens rencontrés par Martin Bourdin. Ils sont très inquiets à ce sujet. Ce sera dans le journal de 8h.
Eh bien, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Antoine Martin. Il est 7h34. Le reste de l'actualité, Stéphane Genest, ce sont évidemment ces coupures de courant dans les écoles, notamment dès janvier, on en parlait hier. Eh bien, Emmanuel Macron tente de rassurer ce matin.
Que ce soit dans les colonnes du Parisien ce matin, où il livre une interview fleuve, ou encore sur TF1 hier midi, le président de la République veut se montrer à la manœuvre sur le sujet, mais surtout pas alarmiste.
Pas de panique, ça sert à rien. Il y a un travail qui est fait, ce qui est légitime par le gouvernement, pour préparer un cas extrême, qui est en effet la nécessité de couper l'électricité pendant quelques heures dans la journée si on venait à en manquer. Mais je vous le dis avec beaucoup de clarté aujourd'hui et beaucoup de force. Si tous ensemble, nous tenons le plan de sobriété, c'est-à-dire réduire d'environ 10% par rapport à nos consommations habituelles, et à côté de ça, si EDF continue le travail, alors oui, nous pourrons passer, même avec un mois de décembre, un mois de janvier froid, cette période. Ça dépend de nous.
Et c'est justement dans ce contexte de coupure potentielle, de courant, l'heure est donc aux efforts, comme le dit Emmanuel Macron, et donc évidemment aux économies d'énergie, mais sur ce sujet, ce n'est pas tout à fait ça. Reportage Victor Joannin.
Les bras chargés de sacs, Sidney déambule dans une rue commerçante. Il a trouvé des cadeaux de Noël, mais des efforts de sobriété, aucun.
Je viens de sortir là du centre commercial. C'est assez clair, c'est que les chauffages ils sont toujours à fond et que les portes elles sont grandes ouvertes. Vous voyez, je porte une veste, je porte une écharpe. J'ai pas besoin qu'il fasse 23, 24 degrés à l'intérieur du magasin. Je préfère qu'il fasse 19-20 et je ferai mes cadeaux de toute manière.
Les enseignes lumineuses et les vitrines sont bien sûr allumées à grands coups de kilowatts et Kylian regrette que ça continue même après l'heure de fermeture.
Quand on marche à 23h et qu'on voit les vitrines allumées, c'est pas normal quoi.
Même goût amer pour Pauline dans le cabinet médical où elle travaille, elle a le sentiment que la prise de conscience n'a pas encore eu lieu.
On est bien chauffé, moi j'ai même trop chaud donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts qui est fait.
Le porte-parole de l'association nationale des DRH, Benoît Serre, explique que beaucoup d'entreprises ont des marges de manœuvre limitées.
Aujourd'hui, on a un certain nombre de bâtiments qui n'ont pas forcément été construits dans une logique d'économie d'énergie et qu'on ne peut pas accuser les entreprises qui les occupent d'être responsables de cela.
Pour le moment, c'est surtout l'industrie qui fait des économies d'électricité avec une baisse de 15%, des efforts contraints par l'explosion du prix de l'énergie.
Un reportage signé Victor Joannin à Paris. Dans l'actualité également, la fronde de la patronne du COVARS, l'ancien conseil scientifique, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, fronde contre l'exécutif. Elle déplore le niveau, je cite, désolant de la vaccination contre le Covid, cela alors que le nombre de contaminations explose. En politique, les adhérents, les Républicains, ont jusqu'à 18h ce soir pour désigner leur nouveau président à l'occasion du premier tour du congrès du parti. Et puis à l'international, le régime iranien apporte une réponse aux manifestations qui secouent le pays depuis plusieurs semaines, à savoir modifier la loi sur le port obligatoire du voile.
Et puis un adolescent de 14 ans, en garde à vue à Sarcelles, interpellé hier en fin de matinée.
Il est soupçonné d'être mêlé à l'agression d'un collégien de 13 ans, poignardé la veille devant son établissement. La victime a été blessée à l'abdomen, hospitalisée, mais ses jours ne sont pas en danger. Pour le maire de cette ville du Val-d'Oise, à Sarcelles, Patrick Haddad, qui s'est entretenu avec la famille de la victime, il pourrait s'agir d'un règlement de compte entre de petites bandes de sa ville.
On voit bien le profil là, de jeunes de 14 ans qui sont très violents malheureusement. Ils sont venus en bande, hein, 3 ou 4 comme ça, pour en découdre. Ce sont des jeunes, un a été exclu de ce collège récemment, et donc ils viennent pour en découdre avec d'autres jeunes avec lesquels ils ont maille à partir. Ce sont souvent des jeunes des mêmes quartiers qui ont des différences souvent futiles, des rivalités de quartier parfois longues qui se passent parfois de génération en génération et qui, dans certains cas, donnent lieu à des affrontements de ce type-là.
7h38, vous êtes sur RMC, c'était le journal de Stéphane Genest et d'Antoine Martin, que l'on retrouve à 8h, bien sûr, tout à l'heure, le retour de l'info et du sport. En attendant, nous sommes là, vous êtes là, vous réagissez sur tous les sujets de l'actualité le matin. Tiens, Cécile est avec nous dans les Hauts-de-France, les Hauts-de-Seine. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Ça va ce matin, Cécile ?
Très bien, je vais très bien.
Vous réagissez à ce qu'on vient d'entendre. Tiens, un reportage de Victor Johannin dans les bureaux, oui, dans les commerces, la sobriété, oui, énergétique, les efforts qu'il reste à faire, Cécile.
Oui. Eh bien, écoutez, ça commence à bien faire, hein, parce que les annonces du président qu'il fallait qu'on soit des bons petits soldats, qu'il fallait qu'on fasse très attention d'éteindre ses lumières, c'est ce qu'on fait déjà. De pas allumer sa télé, de pas faire ci, de pas faire ça. Et moi, j'en ai franchement marre parce que j'habite, je vois toute la Défense, je vois toutes les tours.
Oui.
Et vous, que ce soit le soir, le matin, en pleine nuit.
C'est-à-dire là, par exemple,
allumé.
Cécile, vous oui, depuis votre fenêtre, là, il est 7h39 précisément, oui, nous sommes un dimanche matin, vous avez vu, oui, sur le premier quartier d'affaires européen, tout est allumé là ?
Je ne sais pas combien de tours, mais toutes les tours sont allumées.
Là, en ce moment.
Et même l'arche.
Même l'arche, un dimanche.
Oui, un dimanche.
C'est sûr qu'il y a peut-être des efforts à faire de ce côté-là, Cécile.
Ah,
on pourrait commencer par ce genre de bâtiment, effectivement.
Non, mais attendez, on nous demande des bons petits soldats, on fait au mieux. Et là, quand vous voyez les grosses industries qui finalement s'en fichent complètement, vous dites, attendez, là, il y a un problème.
J'entends aussi en fait une certaine forme de lassitude, Cécile, c'est-à-dire que là, c'est les efforts pour éviter les coupures, mais il y avait aussi les efforts demandés pendant la période Covid, les efforts, au moment des gilets jaunes, la crise des carburants, etc. C'est cette accumulation qui vous fait dire ce matin, Cécile ?
Ah oui, vous voyez, je suis intervenue sur n'importe quelle radio pour téléphoner, pour dire mon ras-le-bol. Mais là, ce matin, parce que vu les annonces qu'il a fait encore hier, le président, j'ai dit, mais c'est pas possible, là, on se fiche de nous. Hein.
Vous avez bien fait, Cécile, parce que vous savez que sur RMC, c'est fait pour ça, le 32-16. Vous n'avez jamais intervenu nulle part.
Ah non,
et bien vous êtes là ce matin.
Fois.
C'est la première fois. N'hésitez pas à le refaire, Cécile. On sera très heureux de vous accueillir.
Merci beaucoup.
Cécile. Merci de cette petite carte postale de la Défense. Cécile, c'est vrai, où ça paraît quand même hallucinant à 8h20 un dimanche matin de voir depuis les fenêtres de Cécile des immeubles de bureaux inoccupés et en même temps allumés et on imagine chauffés à l'intérieur. Ces efforts que demande à nouveau Emmanuel Macron pour éviter les coupures, mais aussi les grèves, mais aussi les retraites, mais aussi le Covid de retour. Tout cela avec Manuel Bompard, député de la France Insoumise, qui attend également vos questions au 32-16. Manuel Bompard s'est installé dans ce studio. Il est avec nous dans 2 minutes. À tout de suite.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Bon réveil, vous êtes sur RMC, il est 7h42.
L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est vous, Manuel Bompard. Bonjour.
Bonjour.
Député insoumis des Bouches-du-Rhône. Travaillez plus longtemps. Personne ne s'en réjouit, mais c'est le seul levier pour sauver notre système de retraite par répartition. Voilà ce que dit Emmanuel Macron ce matin. Le seul levier, c'est vrai?
Non, c'est faux. C'est faux et c'est pas seulement moi qui le dis. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui a été publié au mois de septembre démontre qu'il n'y a aucune nécessité économique à une réforme des retraites aujourd'hui. 80% des Françaises et des Français y sont opposés. L'ensemble des organisations syndicales de salariés on dit leur opposition à un report de l'âge de départ à la retraite. Et donc, je comprends pas l'endettement du gouvernement à vouloir reporter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Il n'y a pas de nécessité économique à faire cette réforme. C'est une réforme brutale, profondément injuste. Un quart des plus pauvres sont déjà morts à 62 ans aujourd'hui dans notre pays. Et vous allez demander à ces gens de travailler jusqu'à 65 ans. Je trouve ça absurde et brutal et totalement inhumain.
Le rapport du Conseil d'orientation et des retraites, je l'ai sous les yeux parce que c'est pas la première fois que j'entends la France insoumise évoquer ce rapport. Certes, il y a un système bénéficiaire pour l'année 2021 et 2022, excédent de 3,2 milliards d'euros. Donc, à court ou moyen terme, il n'y a pas besoin de réformer, c'est ce que vous soutenez. En revanche, ce même rapport précise, d'ici 2032, la situation financière du système devrait se dégrader avec un déficit de moins 0,5 à moins 0,8 points de PIB.
Oui, et ensuite, la suite du rapport dit que les années suivantes, à partir de 2040, le système retrouverait un excédent. Et en réalité, rapport du Conseil d'orientation des retraites dit il n'y a pas de problème de financement des retraites jusqu'à l'année 2070. Pourquoi ? Parce qu'en fonction des générations, il y a plus ou moins de personnes qui sont actives, plus ou moins de personnes qui sont à la retraite.
Et
au fur et à mesure, ça s'équilibre.
De toute façon, il y a déjà eu des réformes qui vont entrer en vigueur. Je pense notamment aux réformes Touraine et qui vont progressivement nous faire travailler jusqu'à 64 ans.
Pas sur l'âge de départ à la retraite. Il y a effectivement des réformes qui sont en cours sur la durée de cotisation. Moi, j'y suis opposé. Le projet que je défends au contraire, c'est un projet avec mes amis de la France Insoumise et de la NUPES de manière générale, c'est le retour à la retraite à 60 ans, à taux plein, avec 40 annuités de cotisation. C'est tout à fait possible de financer une telle réforme par l'augmentation du nombre de personnes qui sont en emploi, par l'augmentation des salaires, notamment si vous mettez les salaires des femmes au même niveau que les salaires des hommes, vous générez un surplus de cotisations sociales qui permet de financer la retraite à 60 ans à taux plein pour tout le monde. Ça, ce serait un véritable progrès.
Contre-proposition de loi portée par la France Insoumise dans l'hémicycle pour faire plier le gouvernement, comme le dit Mathilde Panot, ou alors c'est dans la rue?
Les deux. Bien évidemment, on va faire notre travail parlementaire, on déposera tous les amendements nécessaires pour faire des contre-propositions. Mais effectivement, s'il n'y a pas également une mobilisation populaire dans la rue, on sait très bien qu'à la fin, on n'arrivera pas à s'opposer à ce projet de réforme des retraites. Donc, il faut qu'il y ait une mobilisation sociale dans la rue. Je sais que les organisations syndicales vont se réunir dans les prochains jours pour commencer à poser un certain nombre de dates de mobilisation. Et d'ores et déjà, le samedi 21 janvier, il y a une date de manifestation nationale à Paris qui est appelée par les organisations de jeunesse. Et nous, la France Insoumise, nous la soutenons.
Vous vous y associerez.
Bien sûr.
Les coupures de courant, pas de panique. Ça, c'est encore ce que dit Emmanuel Macron ce matin. On entendait Cécile, là, au 32-16, qui nous rejoignait en disant « Je veux bien qu'on nous demande de faire des efforts à nous, particuliers, mais il faudrait aussi que les grandes entreprises commencent à éteindre les lumières et le chauffage. » Vous comprenez ce ras-le-bol des
Français ? Bien sûr. Bien sûr, je trouve qu'il y a une sorte de deux poids, deux mesures dans les efforts qui sont demandés aux Françaises et aux Français qui est incompréhensible. Vous vous baladez dans le métro en région parisienne, par exemple, vous avez des écrans publicitaires qui sont allumés toute la journée. Vous allez dans un certain nombre de grandes zones économiques comme la Défense, c'est ce qui était évoqué par votre auditrice tout à l'heure. Vous avez des bureaux qui sont allumés et dans le même temps, on va demander aux Français de se chauffer à 19 degrés, ce que la plupart d'entre eux font déjà d'ailleurs au vu des prix de l'électricité parce que tout simplement, ils n'ont pas les moyens de faire plus. On leur demande de mettre des codes roulés. Donc, il y a un déficit dans la mise en place d'un véritable plan de sobriété énergétique qui fasse d'abord contribuer les secteurs qui sont les secteurs les plus énergivores. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, c'est qu'on ne sait plus quoi croire de ce que dit le président de la République. L'été dernier, il disait il n'y a aucun risque de coupure d'électricité cet hiver. Et puis maintenant, il dit si on fait les efforts, il n'y en aura pas. Mais bon, quand même, il faut s'y préparer.
Le problème, c'est la réouverture des centrales et des réacteurs. Avec le calendrier d'EDF qui n'est pas respecté.
Là, le problème central, c'est que vous avez aujourd'hui plus de la moitié des réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt, pour plein de raisons, des raisons de maintenance en particulier, parce que les investissements n'ont pas été faits dans le développement des énergies alternatives. La France est le seul
pays... Mais heureusement qu'on les a en attendant ces réacteurs nucléaires, Manuel.
La preuve que non, regardez, vous avez des réacteurs nucléaires et on vous dit qu'il y a des risques de pénurie d'électricité. Je veux le rappeler, la France est le pays en Europe qui est le pays le plus à la traîne dans l'objectif de développement des énergies renouvelables. Aucune politique d'efficacité énergétique sérieuse n'a été mise en place. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, à l'Assemblée nationale, dans le cadre des examens budgétaires, on a voté des amendements de plus de 10 milliards d'euros pour la rénovation énergétique des logements. Enfin, on avait des amendements historiques qui avaient été votés. Madame Borne est arrivée avec son 49-3, elle a tout rayé, elle a tout supprimé. Donc, ces politiques-là qui permettent de mieux isoler les logements pour qu'on consomme moins, que les factures d'énergie soient plus faibles, que le travail et qu'il n'y ait pas de gaspillage d'énergie, tout ça, on n'est pas à la hauteur aujourd'hui de la situation. Et on a un gouvernement qui est dans l'incapacité de planifier, de prévoir. Et à chaque fois, on arrive au pied du mur. Et maintenant, on va nous expliquer qu'on va empêcher à des enfants d'aller à l'école le matin parce que les écoles vont être fermées. Et comment les gens vont s'organiser, comment tout ça va se mettre en place.
Ça rappelle les plus mauvais souvenirs du
Exactement.
Covid qui revient. 55 000 cas par jour en moyenne. La présidente du COVARS ce matin qui se dit désolée du peu de vaccination des Français, qui appelle aussi le gouvernement à prendre ses responsabilités, une décision en matière de port du masque obligatoire à nouveau dans les transports. Il faut le retour des obligations, Manuel Montpar ?
Si on a le sentiment et si les autorités scientifiques nous disent effectivement que le nombre de cas se multiplie, alors la question du port du masque, en particulier dans les zones où on est extrêmement nombreux, tassés les uns sur les autres, et je pense, oui, une question qui se pose. Si c'est
vous
ça, les obligations, pourquoi pas ?
Si c'est
la décision qui est prise, oui, il faut le faire. Moi, j'essaye de le mettre notamment dans les transports parce que je trouve que c'est pas très compliqué à faire et que c'est une mesure de prudence.
La décision qui est prise, c'est à vous, député, parce que le cadre juridique, il est défini par le Parlement. Pour une obligation du port du masque,
malheureusement,
que ce soit dans les transports ou pas, il faut que ce soit discuté en tout cas.
Malheureusement,
vous voteriez une telle loi ?
Si c'était sur le masque, pourquoi pas ? Mais malheureusement, je crois que ça vous a pas échappé que depuis le début du Covid, l'essentiel des décisions ne sont pas prises par le Parlement. Il y a notamment un Conseil de défense sanitaire qui a été mis en place il y a 2 ou 3 ans, qui prend l'essentiel des décisions sur le sujet. Donc, on a assez peu de prise sur cette question. Mais en tout cas, moi, je suis pas hostile à des mesures en faveur du port du masque.
Manuel Bompard, merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne journée, bon match. Un prono pour ce soir ?
Non, j'en ai pas.
France-Pologne ?
J'espère que la France va gagner quand même.
Ça veut
même
dire
si honnêtement, j'ai beaucoup de choses à dire sur le message social, écologique, démocratique de cette Coupe du Monde, qui d'un certain point de vue ressemble quand même à un multiple scandale.
C'est-à-dire ?
Écoutez, franchement, moi, je, bien sûr, cette Coupe du Monde est organisée. Je vais pas culpabiliser les gens qui regardent les matchs.
Vous les regardez ?
Ça m'arrive de les regarder, mais
quand même.
Oui, mais la question, elle est pas sur la culpabilisation individuelle. La question, elle est de savoir pourquoi on accepte une Coupe du Monde dans un pays dans lequel il y a plus de 6000 personnes qui sont mortes dans la construction des stades, dans lequel on va climatiser des stades. Alors, au même moment, on est en train de parler ici d'éventuelles pénuries d'énergie. Je trouve qu'il y a un certain nombre de scandales dans cette Coupe du Monde qui sont assez insupportables. Et à minima, la France aurait pu faire le choix d'un boycott diplomatique pour envoyer un message fort.
Et vous savez ce qu'on va vous répondre ?
Non.
Pourquoi vous n'avez pas dit ça en 2010, au moment de l'attribution ?
Personnellement, je l'ai dit en 2010, en 2011, en 2012. Mais en 2010, je n'étais pas parlementaire. Donc voilà, mais pour autant, je trouve que c'est assez scandaleux que cette Coupe du Monde soit organisée dans ces conditions-là. Et effectivement, on aurait pu faire autrement.
Merci beaucoup, Manuel Bompard, député insoumis des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RMC. 7h51.
À suivre dans la matinale week-end.
Le début du procès des attentats de Bruxelles.
Oui, il s'ouvre demain et une victime n'y assistera pas. Chanty de Corté, elle n'a pas supporté la vie d'après et elle a demandé à être euthanasiée. Le portrait de Chanty de Corté. Avec Nicolas Poincaré dans une minute sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Le portrait de Poincaré.
Le portrait de la semaine qui nous emmène à Bruxelles ce matin parce que oui, c'est demain lundi que s'ouvre le procès des attentats de 2016. Bonjour Nicolas Poincaré.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
Bonjour. Vous nous faites le portrait ce matin d'une jeune Belge victime de ces attentats mais qui n'assistera pas au procès qui s'ouvre donc demain.
Et non, et pour cause, cette jeune fille n'est plus de ce monde. Elle a eu recours au printemps dernier au suicide assisté. Son histoire est assez terrible. Chanty de Corte avait 17 ans en 2016. Le 22 mai, elle partait pour un voyage de classe en Italie avec 90 autres élèves de son collège de Contiche près d'Anvers. Juste avant 8h, elle se trouve dans le hall des départs de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. Lorsque 2 terroristes kamikazes se font exploser, c'est un carnage. Cet attentat et celui dans le métro, une heure après, vont faire 32 morts et plus de 300 blessés. La jeune collégienne Chanty de Corte sort indemne de l'explosion. Elle n'a rien physiquement, mais elle est traumatisée par ce qu'elle a vu. C'est une jeune fille fragile qui avait déjà des problèmes psychologiques. Quelques semaines après l'attentat, elle est hospitalisée une première fois en psychiatrie. Elle reçoit un lourd traitement d'antidépresseur. Et pendant 6 ans, elle va faire ainsi des allers-retours réguliers à l'hôpital. mentale, avec en 2020 une tentative de suicide.
Et finalement, elle va donc demander à être euthanasiée.
Ce que la loi belge autorise, effectivement, elle fait valoir sa souffrance psychologique insupportable. Sa demande est d'abord plusieurs fois refusée en raison de son jeune âge, elle n'a que 23 ans. Mais en avril dernier, deux psychiatres valident sa demande et le 7 mai, elle est morte entourée de sa famille, comme elle le souhaitait. Sur sa page Facebook, elle a écrit « J'ai ri et j'ai pleuré jusqu'au tout dernier jour. Je vais maintenant partir en paix. » En Belgique, cette euthanasie, qui a été révélée très récemment par la RTBF, a fait débat. Le parquet d'Anvers a ouvert une enquête, mais l'affaire a finalement été classée parce que la procédure, la loi, a été respectée. Santi de Corte n'est pas la seule victime à retardement de ces attentats, puisque trois autres blessés ou témoins des explosions se sont suicidés depuis 2016. Les auteurs et les complices sont donc jugés à partir de demain à Bruxelles. Ils sont neuf dans le box des accusés, dont Salah Abdeslam.
Merci beaucoup Nicolas Poincaré. Votre portrait est à retrouver en podcast sur l'appli RMC. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Excellent réveil, c'est dimanche. Je vous donne le programme de la prochaine heure. À 8h40, un cri d'alarme ce matin sur RMC, celui du monde du spectacle vivant. Les théâtres, les cabarets, toutes ces petites salles de spectacle dans vos communes qui sont en danger, quasiment danger de mort à cause de l'explosion de la facture d'énergie. Elles en appellent au gouvernement. Le président du syndicat qui les représente sera avec nous tout à l'heure, Nicolas Dubourg, 8h40. À 8h20, la branche nuit de l'UMI en colère contre Dijon, contre Metz, qui ne veut plus de discothèques dans les centres-villes et qui veut fermer les bars pour Dijon.
Oui. Ça va aller. Bah oui, Mathieu, c'est vrai que vous êtes malade aujourd'hui et c'est pas facile.
Voilà.
Encore une heure ensemble.
Je vais arrêter de sortir jusqu'à 5h du matin parce qu'on va fermer les bars à 2h maintenant à Dijon. Et puis à 8h10, le mondial, les huitièmes de finale. Manu Amoros avec nous et Jean Rességuier depuis Doha. Allez, à tout de suite.
RMC, la matinale week-end.